Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, partit pour la Galilée. Lui-même avait attesté qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Vous ne pourrez donc pas croire, à moins d'avoir vu des signes et des prodiges. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dit, et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, c'est hier, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, ton fils est vivant. Alors il crut avec tous les gens de sa maison. Tel est le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Évangile, Seigneur, et face à nous. Père, Fils et Saint-Esprit, Saint Passage de l'évangile de saint Jean que nous connaissons bien. Jésus, après avoir fait le premier signe, les noces de Cana. Dans les noces de Cana, il a changé l'eau en vin. Au chapitre 4, où nous sommes aujourd'hui, il parle avec la Samaritaine. Il suscite le cœur des esprits d'une femme qui pense que sa vie est fichue et que. Au fond, c'est ce qu'elle pensait aussi du point de vue de l'amour. C'est en réalité une illusion d'adolescente. Elle se rend compte qu'en fait, l'amour, ce sont des fables pour les gens qui rêvent. Mais en tout cas, que l'amour n'est pas fait pour elle, puisqu'à chaque fois, elle a échoué. Je suis guéri de faire devant sa mère en lui apprenant l'adoration. Et en s'appuyant, en s'asseyant sur le bord d'un puits. C'est tout de suite après qu'il y a ce signe que Jésus guérit l'enfant. Guérit un enfant. Tout de suite après, Jésus guérit un homme. Un enfant qui a grandi. Et tout de suite après, chapitre 5, Jésus va aller au secours d'un homme qui est infirme et qui ne peut plus se déplacer et qui désespère, lui, de pouvoir obtenir la guérison. C'est un homme adulte transformé en loque. La femme qui est suicidée du point de vue du cœur parce que ses échecs l'ont plongé dans le désespoir d'un point de vue d'amour. L'enfant qui agonise et l'adulte qui est devenu une loque. La femme, l'enfant et l'homme. Jésus vient faire miséricorde à toute l'humanité, dans ces plus terribles, hein, du point de vue de la misère. pour l'Église, c'est ce qui est le plus terrible. La femme, c'est de penser que la grâce qui lui est donnée de croire en Dieu ne peut plus vivre, ne peut plus le vivre dans l'allégresse de l'amour. C'est une Église qui est comme ça, c'est comme la Samaritaine. Et puis il y a quelque chose de l'enfant qui agonise. Et quand l'enfant agonise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes, j'allais dire toujours, au bord de la rupture avec la grâce. On se demande quelquefois si on va être capable d'être fidèle. On se demande toujours si on n'est pas à la frontière. On est un peu à la frontière du Christ et de l'Antichrist. Ça va, on va faire. Alors, c'est le Père qui voit l'enfant qui agonise et qui supplie Jésus. Et Jésus guérit l'enfant à distance. Quand on n'a même plus la force de demander à Jésus de nous laisser dans cette espèce d'espérance de la sainteté. Jésus là, et il y a un Père, et j'aime bien penser que ce Père, on sait bien que c'était notre méditation de l'année, notre Père c'est Joseph, c'est le mois Joseph, aujourd'hui le mois de mars, c'est le mois consacré à Saint-Joseph. C'est vrai, on a un Père qui supplie, et on a un Père qui crie, on a un Père, et qui lui savait bien ce que c'était de désemparer. Alors je sais pas... Et puis, après, vous avez l'infirme de la piscine de Bethesda. Alors ça, c'est joli aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus, il vient faire une miséricorde à toute l'humanité. C'est l'agneau de Dieu. Et quand Dieu descend au milieu de nous, j'allais dire, on voit quelqu'un, on voit un Seigneur, on voit un ami, on voit un époux, on voit quelqu'un qui est plus blessé que nous. Et c'est sans ces blessures qu'il faut regarder. Et l'agneau de Dieu est tombé plus bas que nous dans la déréliction. Je ne dis pas dans le désespoir parce que Jésus n'a jamais désespéré. Ou dans le manque d'amour parce que Jésus a toujours été animé d'un amour quasi infini. Mais la déréliction, l'anéantissement, l'absence totale de force, l'agonie de l'enfant, le cri de soif de l'enfant dans le désert sans secours. Une humanité qui face au Père ne vaut plus rien. Seigneur, voilà ce que je vaux. Jésus sur la croix, c'est tout ça. C'est à la fois la Samaritaine, c'est l'enfant qui agonise. C'est l'infirme devenu une loque humaine que les gens ne regardent même plus. Il faut regarder ce cœur de Jésus dans la déréliction et déposer tout simplement notre déréliction dans la sienne. C'est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. C'est. Il vit chez Dieu et miséricordieux. Et c'est dans cette plaie. C'est dans la plaie, dans le cœur de Jésus, broyé, dans chacune de ces plaies, que le croyant vient danser, sautiller, se blottir, s'anéantir. S'endormir, se reposer, trouver la consolation. Et c'est dans le Christ, une fois installé là, dans cette déréliction de Jésus, et dans ses plaies, dans cette sécurité, qu'on peut se tourner à nouveau vers le Père et croire. C'est tout ça. simple, je crois, cette espèce de message, ce grand message de l'évangile de Saint Jean, chapitre 4, 5. C'est beau, je trouve. Ça sent les... En répondant justement pendant les temps qui nous séparent de la résurrection, de la Pâque, qui va avoir lieu le 2 avril, je crois, de cette année. Il nous reste environ une quinzaine de jours. On va demander à Jésus de nous attirer dans cette pauvreté, dans cet appel de Jésus, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Parce que c'est quand même se tourner vers Dieu en disant, mais moi je suis loin, j'arrive pas à aimer, je suis plein d'échecs, je suis pécheur. C'est bien, mais ça sert à rien. On sait bien de toute façon que c'est vrai ça. Il faut se tourner vers Dieu, là où il est présent personnellement pour nous. Et là où Dieu est présent personnellement pour nous, c'est Jésus. La présence de Dieu, j'allais dire, est muette. Tant que c'est encore Yahweh, le nom de Dieu. Mais dès que c'est Jésus, cette présence est là. Cette présence est proche. Cette présence est réelle. C'est la présence de Jésus. Regardez Jésus. C'est curieux, hein? Même spontanément, on regarderait vers l'eau aussi. On disait, voilà. C'était vers Yod, Eva, et dès que c'est sur Jésus, oh Seigneur, tu l'as tout forcément, instantanément, instinctivement, quand vous priez Jésus, vous n'êtes pas là, vous ne dites pas, si vous êtes là, c'est vrai, oh Jésus, tu l'as instinctivement, allez, fais ta prière à Jésus, demandez un petit enfant, allez, fais ta prière à Jésus, où est-ce qu'il est Jésus là? Vers le bas, je pars vers le bas automatiquement. Mais c'est vrai, vous regardez vers Jésus. Jésus, il est descendu aux enfers. Et il faut que nous sachions descendre à partir de notre enfer à nous, dans cet enfer de Jésus, pour ne pas désespérer. C'est ce que Jésus dit à Sidoine, Saint Sidoine. C'est descendre en enfer et ne désespère plus. Pas désespérer. Jésus est là et nous attend là. Jésus, cette présence toute proche de Dieu, et s'habituer à vivre de Jésus à partir de nos pauvretés. Faire oraison pour trouver Jésus et Dieu là où il est. Il est dans cette plaie de Jésus, cette miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est dans nos pauvres, c'est dans nos langueurs, c'est dans nos plaies, c'est dans nos incertitudes. Alors on trouve Jésus, que Jésus qui a pris ses certitudes dans sa chair, comme une stigmatisation. Lorsque on accepte ses fautes, lorsqu'on accepte ses limites, lorsqu'on accepte d'être si pauvre, on accepte d'être transformé en Jésus, offert au Père. Il faut se tourner vers Jésus et comprendre que Jésus nous a saisis là et s'habituer. Parce qu'on n'atteint pas Dieu à travers nos qualités. Qu'est-ce que Jésus doit penser de moi? J'ai été reçu avec mention seulement assez bien en bac. Je refuse complètement Jésus. Complètement. besoin d'amour. Oui, je meurs, j'agonise. J'ai l'impression que c'est impossible pour moi d'y arriver. Ah, Jésus t'aime. Jésus est là. Jésus est en toi. C'est lui qui te porte. Tourne-toi vers Jésus. Jésus et toi, vous êtes un là. Et c'est dans le Christ que tu peux dire au Père que tu es son Fils. Et c'est ça, je crois, la foi et le témoignage du Fils de Dieu, du baptême. Alors, on va demander à Jésus de nous aider à reprendre l'horizon simple. Puisque l'horizon simple, c'est cette oraison d'abandon. Où je n'essaye pas d'atteindre cette lumière immaculée, extraordinaire au fond de moi, qui actue tout le diaphane de la Jérusalem glorieuse. Mais je regarde la réalité, et la réalité c'est que j'agonise. C'est que c'est dur. La réalité, c'est que je suis vraiment pauvre. C'est que toute l'église est pauvre. C'est comme l'infirme qui est au bord de la piscine et n'arrive même pas à aller se plonger dans l'eau au moment où elle bouillonne. Au moment où on se met à l'oraison et que la prière pourrait être fervente, on n'arrive même pas à se mettre dans la ferveur. Non. C'est pas vrai. Et on vit de ce qu'on appelle l'oraison d'abandon. C'est l'union de volonté. Dieu permet cela. Dieu permet que Jésus soit broyé. Dieu permet cela. Il permet que nous avons cette pauvreté, cette insatisfaction, cette impression. Et j'accepte d'être dans cet état un peu moite. Impur. De colère quelquefois. Et puisque Dieu le permet, puisque Dieu le veut, je le veux aussi. Mais je suis tout donné à Dieu. Et je suis uni à cet état d'agonie, d'angoisse avec Jésus. C'est une union de volonté. Au moins, puisque tu le veux, je le veux aussi. Mais nous le vivons ensemble avec Jésus. Retrouver cette union de volonté qui est la condition sine qua non pour aller vers l'union transformante. Vivre longuement et régulièrement cette respiration dans le mystère de Gethsémani. L'union d'abandon. L'oraison d'abandon. C'est facile, l'oraison d'abandon, vous savez. L'oraison d'abandon, je sais pas moi, on te dit, j'ai l'impression que tout le monde se fout. C'est pas difficile, hein, ça, de penser ça. Que les gens s'intéressent pas du tout à toi. Que tu exaspères tout le monde, c'est pas difficile de s'imaginer puisque c'est vrai. Donc c'est pas une imagination. C'est énervant. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce que les autres éprouvent face à vous, vous n'avez qu'à regarder ce que vous éprouvez quand quelqu'un vous exaspère. C'est curieux parce qu'on le voit sur les autres, pas sur nous, c'est marrant. Moi par exemple, on m'a demandé d'aller à Montmorin là. On m'a dit vous allez aller à Montmorin et vous êtes prié de ne pas parler. On ne peut pas parler. Parlez pas. Neureuse. Non. Vous distribuez la communion, mais c'est tout. Parce que vous prenez. Je suis un peu exaspéré par vous. J'ai lu ça dans la lettre. Alors, j'ai lu ça dans la lettre, je dis bon, dis-moi, je suis exaspéré. Pourquoi? nous, on ne voit pas. Les autres s'exaspèrent, et les autres vous exaspèrent. Vous ne comprenez pas que vous vous exaspérez, vous ne voyez pas. Je les aime, tout ça, enfin, j'ai toujours. Et puis c'est génial ce que tu dis, pourquoi est-ce qu'il faut que Et puis en plus, c'est un manteau, c'est le directeur général. Ça, c'est incroyable ça. Vraiment, il faut regarder la vérité. C'est quand même exaspérant. Et c'est, non, je crois que c'est vrai, faut pas être idiot, quoi. Alors, et puis, on voit très bien. Et puis, à partir du moment où on acceptera ça, et que on verra que cette exaspération que nous ne voyons pas, nous ne la voyons pas parce que nous n'avons pas accepté que cette exaspération, c'était nous-mêmes, que le plus exaspéré, c'était nous, qu'on camouflait. Je suis exaspéré par moi-même. Et c'est vrai. Et c'est ça l'horizon d'abandon, vous savez. C'est de voir cette exaspération. Je suis déçu par moi-même. Et c'est vrai, ça. Profondément, c'est vrai. Et accepter d'être peu de choses. Je crois que c'est à cause de ça que, par exemple, Joseph est resté silencieux. S'il avait pris un petit peu plus de place, il savait très bien que ça aurait pu être exaspérant. Mais ça n'est pas venu à l'idée, évidemment. C'est lui qui apportait tout le poids de ce Rusinel dans la Sainte Famille, dans la Trinité Sainte. Alors, c'est nous qui sommes ce poids de faute. Et je crois que c'est un petit peu normal que dans l'horizon, il y ait ce sentiment que j'y arrive pas et que je rejoigne non pas dans cette lumière glorieuse, immaculée qui est en moi et qui est le diaphane de la Jérusalem glorieuse, céleste, mais que j'atteins en moi ce que j'ai fait, cet état de pauvre, de faute, de pauvreté, de limite, de que je suis quelqu'un qui est toujours au bord du danger, et dans la faiblesse, et victime de la tentation, complice de la destruction. Et il y a cette colère qui est en moi. C'est vrai, on le sent quelquefois, cette colère. C'est pas vrai, je n'ai pas envie, qu'est-ce que c'est triste, cette tristesse, ces fantasmes, etc. Et bien très bien, j'accepte, puisque Dieu veut que je vive ça, que je vive cette inconnue, que je vive cette moiteur, que je vive cette amertume. Et bien je la vis, et c'est tout. Je veux la vivre, puisque Dieu veut que je la vive, je veux vivre aussi avec lui. Ça s'appelle l'union de volonté. Et on appelle ça l'abandon. L'abandon spirituel, c'est ça. Ouais. Sinon, vous êtes submergé. Et dès que vous êtes en l'union de volonté, ça c'est du niveau de la mer. Voilà. Oh là là. Quand c'est la colère, c'est encore plus marrant. C'est en colère, vous voulez tuer tout le monde, égorger tout le monde. Je suis pas reconnu. Quand dans un prieuré, vous allez élire un prieur, c'est sûrement moi qui vais être élu, c'est normal. Vous êtes le seul à avoir aucune voix. Si vous voulez égorger tous les frères, forcément. C'est la raison suivante, n'est-ce pas? Si vous voulez égorger tous les frères, c'est extraordinaire. Vous êtes transformé en démon. C'est génial, ce sentiment des démons qui est en vous. Ah, mais Dieu veut que vous fiez ça. Ben, vous le voulez aussi. Évidemment, c'est un canard là-dedans. Mais vous êtes fini, puis si Dieu le veut, je vis. Au reste, on l'abandon. L'abandon spirituel, c'est ça. C'est magnifique. Magnifique. S'habituer à ça. Je crois qu'il faut s'habituer à ça. Parce que s'habituer à regarder vers Jésus. C'est grâce à cette quatrième demeure que je passe de l'Ancien Testament, trois premières demeures, au Nouveau Testament. La quatre demeures suivantes, c'est par l'union de ton nom. Tu viens de découvrir à l'instant que pour toi l'horizon n'était plus un mystère. Il faut accepter qu'il y ait ces durées dans l'horizon chaque jour, et c'est à cela qu'on mesure si je suis d'accord de passer de l'Ancien Testament au Nouveau Testament par le Christ. C'est le seul signe que nous ayons. Il n'y a pas d'autre. C'est pour ça que c'est la seule règle. Sinon, faire au reste. Voilà. On va demander à Jésus de nous aider à l'aimer comme agneau de Dieu.